Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Quelques 680 000 Gabonais sont appelés à voter samedi à des élections législatives et locales. Premier scrutin national depuis la présidentielle de 2016, marquée par la violence et la contestation. Dans les rues de Libreville, aucune effervescence pour la campagne. Seules quelques affiches rappellent que des législatives auront lieu pour renouveler l'Assemblée nationale de 143 députés. Deux ans après la présidentielle, les divisions politiques se sont creusées. Les Gabonais sont désabusés. Ces élections, par trois fois repoussées depuis 2016, devraient se dérouler sans violence majeure, mais avec un fort absentéisme, selon le politologue gabonais Wilson André Ndombé. En août 2016, la réélection contestée d'Ali Bongo face à Jean Ping avait entraîné des manifestations suivies de violences meurtrières. En RDC, réunion aujourd'hui entre la Commission électorale nationale indépendante et les 21 candidats à la présidence de la République. L'objectif est d'évaluer le processus électoral dans la perspective des scrutins du 23 décembre prochain qui divise toujours la classe politique congolaise. Les précisions de Thierry Kabundi de Top Kogo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est à 11h, heure de Kinshasa, que s'ouvre ce cadre de concertation entre la Commission électorale nationale indépendante et les 21 candidats présidents de la République. Il sera question de l'évaluation du processus électoral à 2 mois et demi des élections. La machine à voter, outil informatique à l'usage duquel la CENI conditionne la tenue des élections le 23 décembre prochain, divise toujours la classe politique entre d'une part l'opposition qui en exige le retrait et de l'autre la coalition au pouvoir et la CENI favorable à cette machine. L'autre point d'achoppement, c'est le nombre élevé, plus de 10 millions d'enrôlés sans empreinte digitale. L'opposition, là encore, exige le retrait du fichier électoral, ce qui n'est pas du goût de la centrale électorale. Cette réunion entre la CENI et les candidats présidents de la République intervient alors qu'est attendue ce même jeudi à Kinshasa une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui sera en visite officielle et se penchera notamment sur l'organisation des élections. Kinshasa, Thierry Kamboudi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et à propos de la visite des ambassadeurs du Conseil de sécurité de l'ONU à Kinshasa, les 15 veulent s'assurer de la tenue d'élections présidentielles et parlementaires libres le 23 décembre et faire tomber les tensions entre les autorités de la RDC et les Nations Unies. Les États-Unis ne seront représentés que par un chef de cabinet adjoint de la mission américaine. En juillet, l'ambassadrice américaine Nikki Haley n'avait pas eu de feu vert de Kinshasa pour se rendre à nouveau dans le pays après un premier déplacement en 2017, selon des diplomates. Les Camerounais, eux, se rendent aux urnes dimanche 7 octobre pour choisir leur président parmi 9 candidats, dont le président Paul Biya. Après 36 ans de règne, M. Biya brigue un 7e mandat de 7 ans à la tête du Cameroun. Comment expliquer la longévité de Paul Biya au pouvoir? Nani Talani a joint Hilaire Kamga, il est le porte-parole de la société civile pour la démocratie.
Il n'a pas hérité d'une élection pour être au pouvoir, donc il a été installé par M. Aïdjo dans un contexte où le peuple camerounais attendait un changement après 25 ans de règne d'un dictateur connu qui était M. Aïdjo. C'était en 1982. Bénéficiant donc de cet élément de faveur à la réalité, il s'est installé, il a été doublé par les Camerounais et avec le coup d'État qui a suivi 2 ans après, il a pu se réapproprier le pouvoir et mettre en place des mécanismes de conservation qui s'appuyaient sur des structures que lui-même il a mises en place. Alors ça c'est le premier élément qui est lié aux éléments conjoncturels. Le deuxième conjoncturel est celui des années 90 où il réussit à négocier le tournant devant les libertés de l'Est en refusant la conservation souveraine et en adoptant ce qu'il appelait la tripartite, lui permettant ainsi de neutraliser toutes les velléités contestataires et de mise en place d'une dynamique véritablement endogène de partage de pouvoir. Donc il a pu réussir à neutraliser l'effort de changement dans les années 90 et il a signé un système électoral qui, au travers la fraude, un mécanisme de fraude bien huilé, lui permet donc de rester et de se reproduire régulièrement. Parce qu'il faut noter sur ce plan conjoncturel qu'à la réalité, il faut doubler le plan structurel, c'est-à-dire la mise en place d'une commission des organes de gestion des élections qui, après le ministère de la Commission territoriale, sont devenus le MINAT, et l'ONEL et ensuite l'ELECAM, qui en fait sont des structures totalement aux ordres qui lui permettent ainsi de garantir des résultats électoraux en sa faveur. Il faut comprendre là qu'on n'a jamais eu plus de 7 millions d'électeurs au Cameroun, malgré un potentiel électoral de près de 16 millions. Voilà.
L'élection qui pointe à l'horizon est à un tour. D'après vous, quelles sont les chances de l'opposition de l'emporter?
Je vais malheureusement être péremptoire en affirmant que les raisons que j'ai mises sur la table pour retirer ma candidature au sein de la société civile, il y a 2 mois, sont valables aujourd'hui. Parce que à un tour, si l'opposition ou les forces en face de M. Biya n'ont pas pu coaliser pour impacter sur les inscriptions sur liste électorale, alors le même fichier électoral qui a permis au RDPC d'avoir près de 80% aux élections 2013 va être reconduit pour cette élection. Et donc, malgré l'euphorie qu'on peut avoir autour des candidats, ça ne peut pas impacter fondamentalement sur les résultats électoraux qui vont être proclamés, parce que M. Biya-Paul s'est donné tout un environnement de garantie de sa proclamation comme président de la République, même si sur le plan populaire, il n'aura aucune légitimité.
Donc vous pensez que l'opposition va aux élections déjà battue d'avance?
Non, c'est clair, les opposants sont déjà battus d'avance, pas parce que M. Biya est impopulaire, parce que personne de sérieux au Cameroun ne peut voter M. Biya, il est le plus impopulaire possible, mais le système électoral avec les 6 millions d'électeurs annoncés par Élections de Cameroun, c'est les 6 millions d'électeurs pour une bonne partie sous contrôle de M. Biya et qui n'ont rien à voir avec les foules qui sont derrière les candidats aujourd'hui. Donc il y a une possibilité et il sera déclaré vainqueur même s'il va perdre dans les urnes au niveau numérique.
Il est Kamga, porte-parole de la société civile pour la démocratie au Cameroun. Au Mozambique, le procès de près de 200 personnes, dont de nombreux étrangers, soupçonnés d'appartenir à un groupe islamiste qui sème la terreur depuis près d'un an, s'est ouvert hier dans la prison de haute sécurité de Pemba. Les précisions, Irénée Hermanoumbo.
Ils sont au total 189 accusés, en majorité du Mozambique, mais aussi de la Tanzanie, la République démocratique du Congo, la Somalie et du Burundi, réunis dans la cour de la prison de Pemba. À l'ouverture des audiences, le procureur a dressé la longue liste des charges retenues contre eux. Homicide, association de malfaiteurs, crime contre la sécurité de l'État ou incitation à la désobéissance civile. Selon le procureur, ils sont poursuivis pour l'attaque du poste de police et la caserne de la ville de Mokimbao d'Apraia en octobre 2017, la première opération attribuée à un groupe désigné sous le nom de Al-Shabaab qui signifie « les jeunes » en langue arabe. Depuis près d'un an, la province de Cabo Delgado dans l'extrême nord du Mozambique est le théâtre d'attaques meurtrières conduites par un groupe de jeunes hostiles au gouvernement. Ils ont attaqué de nombreux villages de cette région à majorité musulmane et tuant plus d'une cinquantaine de civils.
Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a souhaité aujourd'hui que l'Europe mette à jour sa vision de l'Afrique et établisse avec son pays un partenariat d'égal à égal en matière de gestion des flux de migrants, alors que la pression migratoire sur le Maroc s'est récemment accrue. On ne peut pas demander au Maroc son aide sur la question migratoire et dans la lutte contre le terrorisme tout en traitant le pays comme un objet, a dit le ministre qui plaide pour un partenariat de confiance et d'égal à égal avec l'Europe.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
7 soldats turcs ont été tués aujourd'hui dans l'explosion d'une bombe artisanale déclenchée par des séparatistes kurdes dans le sud-est du pays, selon l'agence étatique Anadolu. Un précédent bilan faisait état de 4 morts et 5 blessés, mais 3 de ces derniers ont succombé à l'hôpital. L'explosion s'est produite lors du passage d'un véhicule militaire dans la province de Batman, selon l'agence. Ici à Washington, la majorité républicaine au Sénat a avancé dans le processus de confirmation du candidat à la Cour suprême, Brett Kavanaugh. Elle a annoncé un vote demain vendredi sur la clôture du débat et un vote final sur la confirmation du juge, controversé dès le lendemain. Le juge Kavanaugh est accusé d'agression sexuelle ou de mauvaise conduite par 3 femmes. La chancelière allemande Angela Merkel a affirmé aujourd'hui la responsabilité perpétuelle de son pays face à l'antisémitisme et la xénophobie lors d'une visite au mémorial de la Shoah à Jérusalem. La chancelière allemande Angela Merkel, reçue ce jeudi par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, une visite où la relation spéciale entre les deux pays est censée prévaloir sur de sérieuses divergences, qu'il s'agisse de l'Iran ou des Palestiniens. Et le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a accusé les services de renseignement militaire russe d'avoir mené des cyberattaques contre des institutions politiques et sportives, des entreprises et des médias à travers le monde. Le Centre national de cybersécurité britannique a pu déterminer que Moscou se cachait derrière plusieurs attaques commises dans le monde par des cyberassaillants bien connue. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes avec Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.